Alors, bonsoir à tous et merci d'être présents chez Filigrane aujourd'hui pour notre rencontre littéraire du jour. Nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Michel Olivier, qui est un digne représentant de la Suisse, qui nous accueille ce soir. Parce que non content d'avoir déjà écrit une vingtaine d'ouvrages, dont des romans, des essais et de la poésie, et d'avoir participé à la création de nombreux magazines culturels, et ben il est également le lauréat du prix Interallié pour son roman L'amour nègre, qui est paru aux éditions de Falbois L'âge d'homme. Je pense qu'il y a une corrélation. Alors, bonjour, merci d'être avec nous. En quelques mots, je résume pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu votre roman, mais sans dévoiler les grandes lignes de l'intrigue. Alors, c'est un jeune garçon de 11 ans, un Africain, qui est vendu ou échangé par son père contre un grand élément de la technologie moderne. Alors, il assure complètement l'idée de la roue de la fortune de la mythologie grecque, parce que dès qu'il croit avoir atteint un moment d'ataraxie ou un moment de bonheur, bien, finalement, la roue tourne et il tombe dans une chute, il est à nouveau abandonné. Vous voyez que la roue se déroule à l'infini. Alors, la première chose qui m'est vraiment frappée dans votre roman, c'est son aspect profondément picaresque. Alors, de la part d'un auteur suisse, j'avoue que j'avais certains préjugés, surtout ayant reçu le prix Interallié, et j'étais complètement séduite de découvrir justement cette ambiance drôlatique, mi-drôle, mi-figue, mi-raisin. Et donc finalement, on a une narration à la première personne, avec un jeune orphelin qui se révèle vite devenir un paria, qui vit totalement en marge de la société et qui, petit à petit, va courir les aventures aux quatre coins du monde. Alors évidemment, vous imaginez bien, le prétexte est facile, adresser un portrait un petit peu acide de toute l'humanité qu'il rencontre. Et c'est là que survient un élément le plus remarquable, c'est que là où la critique serait aisée, eh bien finalement, vous nuancez très subtilement le tableau. Donc c'est-à-dire que toutes les instances, toutes les personnes qu'il va rencontrer et qui, à un moment ou à un autre, s'avèrent assez abominables, eh bien, ne sont pas si noirs que ça, parce qu'on sent que dans tous les cas, il y a de la tendresse, il y a une certaine réciprocité, un certain échange. Et je me demandais si cette volonté de toujours maintenir l'équilibre, c'était pas parce que derrière les critiques et les accusations bien pensantes qui peuvent jaillir spontanément et très facilement, il n'y avait pas la volonté de montrer du doigt la fascination qui est à l'origine même de ce sentiment. Parce que les stars d'Hollywood glamour, la nostalgie du bon sauvage, la tentation de l'exotisme asiatique, tout le monde le connaît. Mais c'est facile de le critiquer, mais au départ, il y a vraiment ce désir qui est à mettre au jour aussi.
Alors, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. On a du temps devant nous. Une des questions, au fond, que je reprends là dans ce que vous venez de dire. Bon, c'est vrai que c'est un roman qui a un côté satirique. Hein. Bon, c'est un roman qui fait un peu la critique ou la satire d'une certaine société contemporaine, blanche, uniforme et mondialisée. Cette critique, c'est peut-être l'originalité du livre, elle se fait par les yeux justement d'un enfant, en fait un préadolescent, début du livre il a 11 ans, noir, africain, qui est vraiment surgi de la plus extrême misère d'une certaine manière. Et en effet, qui doit découvrir ce monde avec des yeux ahuris, qui doit rien comprendre. Hein. Et il décrit les choses au fond comme il les voit, comme il les sent. Alors ça c'est la première partie, donc c'est vrai qu'il y a cet aspect descriptif et satirique du monde contemporain. Je pense que j'ai essayé de pousser plus dans ce livre que dans les livres précédents, parce qu'au fond j'ai déjà écrit plusieurs livres un peu dans cette veine satirique. Le dernier, avant L'amour nègre, c'est un livre qui s'appelle La vie mécène, et qui reprend au fond un peu cette fameuse affaire du banquier Edouard Stern, qui a été au fond assassiné par sa maîtresse à Genève. Alors là, j'avais essayé de décortiquer au fond cette affaire qui avait des prolongements financiers, aussi sportifs, sexuels, artistiques, d'entrer dans cette personnalité au fond de ce personnage tout à fait particulier. Mais on voyageait déjà un tout petit peu parce qu'il y avait une pianiste genevoise qui allait vivre à Toronto. On faisait un détour par Bali qui me permettait de rencontrer des amis disparus comme mon ami Marc Hjort. Et au fond, on voyageait un peu, mais c'était quand même centré un peu autour de Genève, de la vie genevoise, etc. Un peu l'envers de la vie genevoise. Tandis que là, j'ai essayé, au fond, d'ouvrir un peu la perspective et puis de le balader dans le monde entier. Et avec cette idée, toujours, que, évidemment, c'est un certain voyage, un voyage tout à fait particulier, mais puisque, au fond, c'est pas lui qui le décide pendant une bonne partie du livre. Il est d'abord adopté ou vendu, comme vous l'avez dit, à un couple d'acteurs hollywoodiens. Il ne choisit pas d'aller là-bas. Il découvre cette vie factice avec des yeux parfaitement ahuris. Ensuite, il est adopté encore par un troisième père. Ensuite, il rencontre une deuxième mère, etc. Il finit, enfin, le livre se termine en Suisse, mais au fond, la quête de ce personnage, Adam, n'est pas du tout terminée. On imagine qu'il va la poursuivre. Donc, je voulais le balader sur les cinq continents, hein, faire une espèce de tour du monde, je ne sais pas, entre Candide et puis les voyages de Gulliver, qui sont des livres que j'ai toujours adorés, qui ont marqué mon enfance aussi. Hein, et donc, élargir la perspective, et peut-être que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce livre a plu au jury interallié.
Ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme vous l'avez dit, c'est un roman totalement global. C'est-à-dire que le personnage va se promener sur chacun des continents. Et ce qui est assez remarquable, c'est que sur chacun d'eux, il va rencontrer une instance parentale, d'autorité, enfin, qui correspond à cela. Et dans tous les cas, celle-ci va échouer dans sa mission. C'est-à-dire que tous les modèles éducationnels qui sont présentés sont sans cesse corrompus ou bien alors sont dans l'incapacité d'assurer justement une éducation acceptable. Plutôt que de guider l'enfant, on a plutôt l'impression qu'il vise à le corrompre. Et donc, ils sont tous dans l'incapacité soit de donner la vie, soit alors d'avoir ce désir d'enfanter, ce désir de se reproduire. Et donc finalement, on se retrouve face à une humanité, donc par ailleurs à une société totalement stérile, et on a vraiment l'impression que vous montrez une société qui est dans l'incapacité d'être, parce que justement elle est totalement dans l'avoir, elle est totalement dans la représentation, et donc il n'y a plus du tout ce désir organique de reproduction et de transmission.
Oui, c'est une société où quelque chose s'est cassé. Peut-être le désir est là toujours, mais il n'arrive pas à s'exprimer, ou en tout cas, mettons, il prend des biais tout à fait particuliers. Hein. Exactement. C'est pour ça aussi que, mettons, le thème de l'adoption, par exemple, est important dans le livre. C'est traité de manière un peu humoristique, satirique, exagérée, bien sûr, mais c'est vrai que c'est frappant de voir, au fond, la détresse en particulier de ces... Bon, de ces people, de ces stars qui adoptent à tour de bras, etc., pour se racheter une bonne conduite ou une âme pure. Et au fond, la généalogie passe par d'autres biais. Enfin, ça crée aussi des familles recomposées, détruites, recomposées à nouveau. Ce qui est quand même le propre, la particularité de l'époque d'aujourd'hui. Hein. On connaît tous, on a tous vécu pratiquement cette situation-là, en effet, d'avoir un père, un deuxième père, un beau-père, un deuxième beau-père, etc. Et ça c'est quelque chose de typiquement... Je voulais traiter cette matière contemporaine et par le biais de l'adoption en particulier et montrer que les choses se font, mais se font de manière très, très compliquée, de manière détournée, oblique, etc. Quant à la question de l'éducation, vous avez raison de dire que dans chacune de ces parties, au fond, il y a cinq parties, cinq continents, ils reçoivent une éducation différente. Si on peut parler d'éducation, dans la première partie, il est complètement livré à lui-même, il joue au foot, il grimpe dans les arbres, il essaye de s'enfuir, on le ramène toujours, etc. Il n'en est pas plus malheureux pour autant, d'ailleurs, parce que il est doué pour le bonheur. Ça, c'est encore une autre particularité, mettons, du personnage. Mais c'est vrai que c'est une éducation d'une pauvreté absolue, probablement. Et puis, la deuxième partie, c'est une éducation il est pas moins livré à lui-même. Au fond, ses seuls amis sont des animaux perdus et adoptés par ses parents. Il se retrouve une espèce de communauté comme ça avec ces animaux-là. Mais ses parents, c'est vrai, à part organiser des fêtes, plonger à moitié nu dans la piscine tirer sur les paparazzi à coups de fusil, ils lui apprennent pas grand-chose. Hein. Dans la troisième partie, justement, quand il est adopté par son troisième père, au fond, sur cette île du Pacifique, là, il y a quand même un semblant d'éducation. Il essaye de lui inculquer certaines valeurs, mettons très simples. En effet, il essaye de lui faire du sport, il essaye de lui donner des horaires particuliers, sans que ça soit extrêmement strict. Il essaye aussi de l'initier à la lecture, de lui montrer qu'au fond, les livres rendent libre et qu'au fond, sa liberté, il peut la trouver ailleurs que dans la fuite ou dans le crime ou dans la drogue, etc. Hein. Et y a quand même cette idée que la littérature rend libre. Et puis, bon, après, il poursuit son éducation peut-être d'une autre manière. En effet, dans cette île du Pacifique et puis ensuite en Suisse, en devenant un peu le gigolo de la femme du banquier qu'il ramène en Suisse. Et donc, bon, il parfait son éducation de cette manière-là. Hein. Donc, chaque fois, c'est un peu par miettes, par bribes, c'est discontinu. Et puis, sa force, peut-être, c'est qu'il trouve son chemin, malgré dans cette espèce de chaos, qui correspond un peu au chaos du monde globalisé, comme ça, où les valeurs s'effritent. Et au fond, bon, il trouve son chemin, et puis il arrive, au fond, à accomplir une sorte de destin dans la dernière partie du livre, destin qui est presque de sauver, au fond, à lui tout seul, d'une certaine manière, l'humanité ou la société blanche européenne.
Et la banquière ont les mêmes yeux bleus outre-mer. Et donc, on a vraiment l'impression que l'histoire se répète de façon sans cesse machinique, parce que forcément, il n'y a plus création d'histoire, puisque rien ne n'est plus de rien, il n'y a plus d'apprentissage qui se fait, puisque tout est cassé, c'est sans cesse séquencé. Et donc, finalement, le seul qui reste créateur d'histoire, c'est Moussa, puisque c'est la seule personne qui reste féconde. Il met quand même deux femmes enceintes, ce qui n'est pas mal du tout. Et donc, on a un petit peu l'impression que s'il n'était pas là, ben, la société déclinerait et que, surtout, elle est vouée à disparaître, à tomber dans le néant, comme le visage de cette femme qui se regarde dans le miroir et qui, finalement, ne s'y reconnaît plus.
Oui, il y a quelque chose qui m'a frappé, et que j'essaie de décrire dans le livre. En effet, c'est cette fascination pour le spectacle, pour le paraître, et au fond débouche sur une espèce de fascination du vide. Il y a un côté mortifère, il y a un côté très sombre peut-être dans certains personnages, en particulier dans le personnage de Matt, son père adoptif au fond, bon, qui joue les belâtres au cinéma, qui a beaucoup de succès, qui a une femme magnifique, etc. Et puis bon, qui a en lui cette espèce de tentation du néant, qui le fait rouler à travers le désert, et qui le fait, essayer de tuer son fils symboliquement avec une carabine. Et presque tous ces personnages, en effet, sont un peu guidés par ou habités par ce vide qu'il trouve dans le miroir, parfois justement à plusieurs reprises, se regarde dans le miroir, il ne voit rien, il voit une image qui a disparu, etc. Tandis que bon, Adam, lui, traverse ses phases avec une certaine, je ne veux pas dire facilité, mais enfin une force qui lui est propre et que peut-être les personnages décrits dans le livre ont perdu. Hein. Ça, c'est un aspect. Quant à l'aspect de la paternité ou la maternité, c'est vrai que bon, c'est peut-être plus autobiographique d'une certaine manière. Parce que c'est vrai que j'appartiens à une génération qui a repoussé un peu les limites de la paternité, si j'ose dire. C'est-à-dire, bon, toujours en disant, oui, c'est trop tôt, il faut le faire le plus tard possible, etc. J'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas d'enfants, qui ont refusé, etc. Et puis, bon, c'est quelque chose, à mon avis, de très historique, hein, une sorte de blocage, comme ça, de fascination, peut-être, du vide aussi. Que lui ne connaît pas et qui dépasse dans le livre. Il donne au fond des solutions. Dans la dernière partie, une partie aussi un peu burlesque, rapide, où il se balade avec son ami Marabout à travers l'Europe. Et puis c'est presque une suite de parties de jambon l'air, etc. Ils ont mis au point les deux une sorte de nouvelle thérapie. Entre la thérapie de la parole et la thérapie sexuelle, si j'ose dire, qui donne une certaine une certaine route, une certaine direction dans laquelle le livre se termine, et une certaine solution en effet à cette espèce de malheur, le luxe en particulier, ou ce souci de l'avoir, comme vous disiez, cette obsession en effet de se montrer, de dépenser, etc. On tourne toujours autour du vide, d'une certaine manière, et puis il y a un côté de la dépression, d'une certaine manière. C'est presque chaque fois un symptôme d'une dépression qui rencontre parmi les personnages du livre, hein, les femmes comme les hommes, d'une certaine manière. Hein. Et au fond, il a trouvé son truc, si j'ose dire, qui est au fond la danse du bambou, la transe du bambou, la fièvre du bambou. Et puis, c'est traité de manière un peu comique, évidemment, mais c'est au fond le remède antidépression. Quoi.
Oui. Donc, pour vous, la fascination du vide, ce serait le nouveau paradigme de la modernité, alors ? Parce qu'il y a de nombreux théoriciens et penseurs qui l'ont vraiment... pointé du doigt comme étant tout à fait symptomatique de l'ère contemporaine.
Oui, il me semble qu'en effet, plus il y a ce désir d'accumulation, plus il y a ce désir d'acheter pour « j'achète donc je suis », et plus en effet, le vide est présent ou sous-jacent d'une certaine manière. Hein. Il y a quelque chose qu'on essaye de fuir et qui revient tout le temps, au fond, parce qu'on l'accepte pas, on refuse de le voir. Hein. Cette fuite, justement, dans les marques, là, il y a tout un travail obsessionnel dans le livre autour des marques. Il y a beaucoup de marques de vêtements, de chaussures, je sais pas moi, qui sont nommés parce que les personnages ou certains personnages du livre en tout cas n'existent que de cette manière-là. Hein. Ça aussi c'est une expérience au fond personnelle, parce que j'enseigne et je vois aussi très bien que mes élèves d'abord sont habillés de manière extrêmement uniforme, ils portent tous les mêmes pantalons, les mêmes jeans, etc. Mais que ça suffit pas de porter, mais il faut quand même la marque, il faut quand même ce plus, n'est-ce pas, qui fait que la marque vous donne une forme d'existence au fond. Hein. Et ça évidemment, c'est aussi quelque chose, je pense, assez contemporain. J'essaie d'en rire et j'essaie d'en parler avec eux, mais il faut passer. Inquiétant aussi, hein, parce que souvent ils se ruinent pour exister de cette manière-là, aux yeux des autres, hein, aux yeux des profs pas tellement, mais enfin aux yeux de leurs camarades. Hein, il y a cette espèce de surenchère comme ça, de l'accumulation, du luxe, qu'on pourrait aussi appliquer à la folie technologique, mettons, le fait de changer régulièrement, de portable, de télévision, d'ordinateur, etc. Bon, il y a aussi une espèce de fuite comme ça en avant que lui ne connaît pas parce qu'il ne vient pas de ce monde-là. Au fond, ce vide, il ne l'a pas en lui, probablement.
Oui, et c'est vrai parce que vous voyez sans cesse comme le personnage est à contre-courant. C'est-à-dire qu'il commet beaucoup d'actes assez violents et répréhensibles, et pourtant les seuls pour lesquels il est vraiment puni, soit il ne les a pas réellement commis, soit alors il s'agit d'un acte d'amour. En l'occurrence, il est tombé amoureux de sa sœur adoptive et cela a eu des conséquences un petit peu désastreuses. Mais vous sentez bien comme à chaque fois, les deux codes déontologiques sont complètement inversés l'un par rapport à l'autre et qu'il y a une véritable, un véritable décalage des regards sur la même réalité.
Oui, il fait des bêtises, au fond, un peu comme tous les adolescents en font. À part peut-être celle-là, mais je veux dire, il joue avec des allumettes, il met le feu au garage, etc. On l'envoie chez le psy, ça ne sert pas à grand-chose. Mais c'est vrai que, au fond, en lui, il porte cette force qui dépasse, ou en tout cas qui, vous voyez, qui dépasse cette frontière entre le bien et le mal, et entre les délits qu'on connaît, et puis au fond ceux qu'on accepte d'une certaine manière. Hein. Bon, cela dit, c'est vrai que dans le livre, à chaque fois, que ça soit le fait de, au fond, mettre sa sœur enceinte, ça s'explique aussi par le fait que cette famille recomposée dans laquelle il a été mettons, accepté au début tournait autour de lui, et puis bon, à partir du deuxième enfant, bon, il perd déjà ses prérogatives, puis il y en a trois, puis il y en a quatre, puis il y en a cinq, et puis on peut imaginer qu'à partir de 10 ou 12, en effet, c'était une espèce de gabegie totale, à moins de faire une équipe de foot pour les accorder, ça doit être assez difficile, et je ne suis plus à imaginer cette situation-là, en effet, d'une situation impossible, parce que bon, mélange des langues, mélange des cultures, chacun veut avoir la meilleure place à table, les meilleurs morceaux, etc. Il y a quelque chose bon, qui doit être en effet assez terrible. Et puis, il cherche des alliés dans cette situation, et puis sa meilleure alliée, c'est sa sœur adoptive, c'est Ming. Voilà pourquoi, au fond, bon, ils ont cette histoire, c'est presque un peu par désespoir aussi. Et puis à la suite, ensuite, bon, c'est vrai que cette fascination du feu, parce que dès le début, il aime bien jouer avec le feu. Bon, la maison de son père, son troisième père, brûle. On l'accuse, etc., d'un crime en effet qu'il n'a pas commis, semble-t-il. Et puis, bon, c'est une sorte de ressort supplémentaire pour le faire avancer dans son destin. Mais c'est vrai qu'il a peut-être bon, une sorte de code moral inné. Peut-être que ça, c'est un souvenir des lectures que j'ai faites il y a longtemps, enfin de Voltaire ou de Rousseau, ou du Bon Sauvage ou de l'Ingénu, par exemple, qui arrive en effet en France, dans cette région reculée et un peu retardée de la Basse-Bretagne, avec des valeurs, au fond, qui sont les siennes. On le considère comme un sauvage, or il a des valeurs beaucoup plus saines et finalement beaucoup plus civilisées que les Français qu'il rencontre.
Alors, il y a un autre élément qui est vraiment remarquable, c'est le fantasme de dévoration qui se retrouve de façon omniprésente dans le roman. Alors, il se développe sous plusieurs formes. D'un côté, il y a d'abord sa petite sœur dans son village africain au tout début, est dévorée par des hyènes. Ensuite, sa mère adoptive, la première, rêve qu'elle est dévorée par ses fans. Et lui-même, en quelque sorte, est dévoré par ses demeures affectives, puisqu'elle lui donne, elle le renomme, elle lui donne un nouveau nom, ce qui est une façon pour lui de s'intégrer, mais également d'être intégré. Et donc finalement, j'avais l'impression que vous montriez ça aussi comme étant représentatif de la modernité, en ce que, vivant dans une société du spectacle, on est dévoré par les images, et du coup, on y perd complètement notre singularité.
Très bonne interprétation, merci. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient un peu régulièrement dans ce livre, comme plusieurs scènes, mettons, récurrentes. Mais dans la première partie, c'est vrai que il y a toujours cette idée, au fond, de ce risque, de ce danger d'être dévoré. Hein. Parce que, bon, j'imagine, en effet, que dans cette tribu, bon, qui est très proche de la nature, bon, les dangers sont constants. Pour un enfant, l'enfance, l'enfance est un coupe-gorge, parce que au fond, la mort est presque partout présente. Hein, elle est naturelle, etc. Et puis, cette réalité, au fond, cette menace réelle, c'est vrai, devient après une espèce de cauchemar symbolique chez sa mère. Bon, j'essaye aussi de donner des explications, ou en tout cas de donner des pistes, en effet, puisque cette mère Dolores, au fond, a été abandonnée par son père, dévorée un peu symboliquement par sa mère, et donc, bon, ça revient dans ses rêves, sous une forme à chaque fois un tout petit peu différente. Mais c'est vrai que, bon, il y a cette peur, peut-être, d'être dévorée par les images, par les écrans. Ce couple de cinéma, au fond, bon, essaye de rester soi-même et d'une certaine manière intègres, authentiques, comme ils doivent l'être en famille, d'une certaine manière, hein, c'est-à-dire de poser le masque, ce qui est extrêmement difficile, mais ils ont en eux cet amour, c'est vrai, des images et du cinéma, et de la représentation et du jeu, etc. Donc, bon, il y a toujours, c'est vrai, peut-être ce fantasme de dévoration, ce danger, ou cette menace qui est là derrière. Quand, par exemple, dans la troisième partie, avec ce troisième père qui ressemble un peu à George Clooney, il essaye de ne pas se faire dévorer par le cinéma. Il essaye de contrôler, il essaye de rester maître de cette image, au fond. Et puis, je montre que c'est très difficile de rester au fond, en dehors, ou dans les marges du système, parce que même dans les marges du système, le système vous dévore, vous happe, et vous dévore assez facilement, au fond, hein, parce que, bon, il faut faire tourner la machine à fantasmes, il faut qu'il soit régulièrement présent dans les journaux People, il faut qu'il tourne des films régulièrement, etc. Il faut qu'il accorde des interviews à des paparazzi. Alors, j'essaie de montrer que, bon, lui essaie de négocier la chose. Il essaye même de scénariser les rencontres ou de faire des fausses fiançailles, etc., de maîtriser le maximum avec un script. Et puis, mais ça dérape tout le temps, évidemment, parce que bon, il s'agit d'hommes et de femmes. Il y a des questions de désir là-dessous, et que bon, ce phénomène de l'image, on ne peut pas le contrôler complètement. Et puis bon, ça finit relativement mal aussi pour lui, hein. Et puis après, c'est vrai que ce fantasme de dévoration, d'une certaine manière, bon, il est repris par la femme de banquier là, qui saute sur ce bel Adam, au fond, pour le dévorer, parce que bon, elle a une espèce d'envie, de faim, sexuelle en particulier. Bon, elle est attirée vraiment par ce personnage. Et donc, bon, c'est un peu comme une mente religieuse, c'est vrai, qui le happe d'une certaine manière, bon, jusqu'au moment où, en effet, ils se retrouvent enceintes. Et puis à ce moment-là, elle le jette comme un Kleenex, ouais. Mais bon, ça revient, c'est vrai, cette menace de dévoration.
Pour finir, la fin est laissée vraiment ouverte, donc vous n'avez pas vraiment de solution. Vous pouvez tout à fait imaginer votre propre interprétation. Et je me demandais si c'était la possibilité, enfin pour lui, d'inverser le cours des choses et de prendre enfin le cours des événements en main, de n'être plus la marionnette d'une machine qui sombrait malgré lui.
Oui, je crois que c'est une très bonne interprétation. Donc, bon, quand vous écrivez un livre, vous arrivez à la fin, c'est toujours un moment extrêmement angoissant, parce que au fond, d'abord, il y a plusieurs fins possibles. Et puis, bon, selon les époques, les auteurs, au fond, bon, il y a plusieurs manières de conclure. Hein. Si on conclut comme les grands romanciers du 19e siècle, mettons, Flaubert et autres, pour la dernière page, ils rappellent, voilà, Berthe Bovary travaille dans une usine textile, Charles Bovary vient de recevoir, enfin, plutôt Homais vient de recevoir la Légion d'honneur, etc. Et puis, boucle la boucle, et bon, c'est fini. C'est une manière, bon, qui me paraît intéressante, et puis, au fond, bon, qui est liée quand même à cette époque, de grande maîtrise du roman. Hein. Et puis, bon, il y a d'autres manières plus allusives, peut-être, ou plus fuyantes. Et moi, je ne voulais pas terminer sur une... Je veux dire, il aurait pu retrouver, c'est vrai, sa sœur. Bon, voilà, la dernière scène, et puis se marier, ils ont beaucoup d'enfants, etc. Mais non, je voulais quand même qu'il y ait une espèce de suspens, et que la dernière... C'est pour ça que la dernière scène du livre, au fond, se termine sur un rêve. Il voit en rêve, une sorte de rêve ou de cauchemar, au fond, tous les rejetons qu'il a semés de par le monde, qui viennent, au fond, lui réclamer, lui demander raison, hein, un jour ou l'autre. Parce que, justement, bon, comme au fond, chaque fils vient demander raison à son père, un jour ou l'autre. Hein, pourquoi est-ce que tu m'as fait? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Pourquoi est-ce que tu es là? Pourquoi est-ce que tu ne m'aimes pas assez? Et puis, au fond, ça, c'est la fin qui m'a paru la plus intéressante, d'une certaine manière. Parce qu'elle est à la fois ouverte, et puis à la fin, bon, on termine sur cette image de... un peu de rêve, comme ça, mi-rêve, mi-réalité, qui me paraît plus riche, parce que chaque lecteur peut continuer, au fond, son propre peut achever le proprement ou le continuer encore presque indéfiniment. Mais vous avez raison de dire qu'il prend enfin les choses en main d'une certaine manière. Il est enfin maître de son destin à travers toutes ces épreuves. Bon, c'est un gosse. Au début du livre, il a 11 ans. À la fin du livre, il a 17 ans. Il prétend qu'il en a 18 ou 19 parce que bon, il veut faire plus grand que lui. Mais d'une certaine manière, c'est vrai qu'il a tout appris. Il a traversé au fond le monde entier. Il a appris beaucoup de choses. Et puis il a, mettons, appris une certaine liberté, en tout cas, une certaine autonomie aussi. Et puis il est maître, il est capable de font diriger lui-même sa propre vie.
Alors, merci beaucoup pour cette intervention. Merci aussi d'avoir été avec nous ce soir. Si vous cherchez un livre qui vous détende, qui soit différent de tous les autres que vous ayez lus à cette rentrée, choisissez un livre drôle, choisissez un livre qui vous fasse vous interroger, qui soit à la fois ironique et plein de perspectives à ouvrir. Et donc voilà, bonne soirée. N'hésitez pas, je pense que Jean-Michel et Olivier est à votre disposition si vous désirez faire dédicacer certains de vos ouvrages. Donc voici, il est juste là auprès de vous. Et merci encore d'avoir été avec nous.
Merci à vous.